Manche et après, une émission préparée par Charles Thibault, réalisée par Thomas Beau. À la technique, c'est Julien Calvas. C'est une peinture dont les pigments évoluent insensiblement. Le portrait social de la France tel que le croque chaque année l'INSEE avec ses pinceaux à elle que sont les chiffres nous donne une idée des évolutions feutrées de notre structure sociale. Pour la première fois cette semaine, l'Institut National de la Statistique a choisi d'esquisser ce qu'on appellerait un détail en peinture, mais qui concerne tout de même plus de 18% de la population. Un détail sur la France qui n'est ni celle des riches ni celle des pauvres, mais la France qui se situe au milieu de l'échelle sociale, à plus ou moins 10% d'un salaire médian, établi à 1680 euros net par mois, après impôts et après versement des prestations sociales. Je vous entends faire le calcul derrière le poste. Les auteurs de l'étude la qualifient de médiane, cette France, manière de contourner les débats sans fin sur la définition des classes moyennes. Mais que faire de cette nouvelle catégorie statistique qui recouvre des réalités professionnelles et familiales si diverses? Peut-on s'en servir pour élaborer des outils de politique publique à destination de ces Français qui sont trop au milieu pour attirer l'attention, comme dans un de ces dessins en trompe-l'œil où l'essentiel est invisible? C'est la question à laquelle nos invités ont jusqu'à 19h pour répondre. Va-t-on prendre la mesure de la France du milieu?
Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à appliquer le très célèbre théorème de la médiane. Théorème de la médiane qui dit quoi? Qui dit que dans un triangle ABC quelconque, qui possède une médiane CK, eh bien j'ai la formule suivante qui commence par
CA au carré plus CB au carré est égal à, eh bien, à deux fois le carré de la longueur de ma médiane, plus, eh bien plus, la moitié du côté AB au carré, donc c'est-à-dire le côté qui est opposé au sommet de la médiane. Voilà la longueur de la médiane cherchée.
Est égal en valeur exacte à racine carrée de 21, et cette séquence est terminée.
Dimanche, et après, Julie Gacon.
On va essayer de mettre un peu d'humain derrière ces formules mathématiques, n'est-ce pas Louis Chauvel? Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, vous enseignez aujourd'hui à l'Université du Luxembourg. Ça fait plus de 20 ans que vous analysez nos structures sociales et la manière dont elles évoluent d'une génération à l'autre. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, le dernier en date, La spirale du déclassement, essai sur la société des illusions. C'était en 2016 au Seuil. Merci à vous d'être avec nous, ainsi qu'à vous François-Mickey Marty. Bonsoir.
Bonsoir.
Président de Via Voice, institut de sondage et d'études d'opinion, études dont vous avez tiré des enseignements sur les évolutions de la société française, notamment dans vos derniers livres, Les nouvelles passions françaises chez Michalon. Alors, vous êtes l'un et l'autre, et chacun à votre manière, grand consommateur de chiffres et de séries statistiques. Vous dites, Louis Chauvel, que vous utilisez des télescopes démographiques pour analyser les transformations de la société française. Est-ce que vous avez trouvé, l'un et l'autre, des données nouvelles dans ce rapport de l'INSEE, et particulièrement ce chapitre consacré à la France dite médiane, en tout cas des choses qui ont attiré votre attention?
Je ne dirais pas forcément qu'on a trouvé que j'ai trouvé des choses vraiment très nouvelles dans ce rapport, parce que les dernières données sont celles de 2014, c'est très bien, c'est relativement récent, sans être totalement non plus absolument récent. Ce qui est le plus frappant, en fait, c'est de constater comment en France, assez souvent, enfin, je dis en France parce que j'ai en comparaison un très grand nombre de pays dans mes travaux habituels, comment en France, on continue de se représenter le monde social avant tout au travers du revenu ou de l'activité socio-professionnelle et trop rarement au travers du patrimoine. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette France de la médiane est fondée avant tout sur le revenu. Et ce que nous savons par la diversification des ressources de revenus et surtout par l'exigence croissante de relations, de disposition d'un patrimoine, notamment d'un patrimoine familial, cette référence à la médiane des revenus est de plus en plus problématique dans la mesure où de plus en plus de gens se contentent d'un revenu médian ou situé au-dessus, mais ce qui fait vraiment la différence, c'est la disposition d'une ressource, d'un stock de ressources économiques familiales, à savoir du patrimoine, qu'on peut appeler aussi matrimoine si vous le souhaitez, mais d'un patrimoine qui permet de véritablement faire la, la différence dans un contexte de plus en plus tendu aujourd'hui.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà pour donner quelques éléments de cette étude de l'INSEE, François-Mickey Marty? Elle concerne cette France médiane, 11 600 000 personnes dont le niveau de vie se situe entre 1510 et 1850 euros net par mois. C'est 18% de la population, 18,7%. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme élément intéressant dans cette étude-là?
Le premier élément, c'est l'objet lui-même dont on parle, qui suscite une forme d'étonnement a priori. C'est-à-dire lorsqu'on voit ce rapport de l'INSEE, et puis autour de votre émission, on dit « Tiens, mais qu'est-ce que cette France médiane ?» Et c'est un excellent légitime interrogation, dans la mesure où on parle beaucoup dans nos débats politiques, dans nos débats de société, des gens qui sont en grande difficulté, on parle des gens qui sont très aisés, il y a la France des riches, bon, mais tout d'un coup, on se dit « Tiens, et le milieu ?» Bon, et ce milieu est fondamental puisqu'il est le milieu. C'est le cœur de la France. Alors qu'est-ce qu'on en retient? Trois choses. Moi, j'ai été plus surpris que Louis Chauvel. Le premier élément, c'est le profil des gens qui composent cette France médiane. Beaucoup d'ouvriers, beaucoup d'employés. 60% sont des ouvriers, des employés. Deuxième élément, la stabilité, voire l'amélioration des niveaux de vie. Alors, certes, dans la longue durée, de 1996 à 2014, plus 17% d'amélioration du niveau de vie. Alors certes, ça s'est tassé après la crise de 2008, mais quand même globalement en amélioration. Et puis troisième élément, la proportion de propriétaires, de 54% en 1996 à 58% en 2013. Donc ce qui est certain, c'est que les choses, objectivement, ne se détériorent pas autant qu'on pourrait l'imaginer en regard du discours que l'on entend en général sur le déclassement.
Un niveau de vie qui a augmenté en un peu moins de 20 ans, 17% vous le disiez en euros constants, mais Louis Chauvel, des difficultés pour assurer des dépenses ponctuelles. Un quart de ces Français médians déclarent ne pas pouvoir partir une semaine en vacances dans l'année, ni changer ses meubles. Alors je ne sais pas pourquoi, c'est le critère qui a été retenu, je ne sais pas si on change souvent ses meubles, mais bon...
L'un des points importants, 17% en 20 ans, waouh, génial, c'est quand même super que l'on croisse autant de ça. Mais il faut se rappeler que c'était quand même le 17%, ce sont 3 années et non pas 20 années des 30 glorieuses. C'est-à-dire que ces 17% en plus, c'est une année d'accroissement du prix du mètre carré dans Paris intramuros et dans les grandes villes de France en termes de prix d'acquisition au mètre carré. Ce qui veut dire que cette information selon laquelle il y a une amélioration du niveau de vie, exige quand même de faire preuve d'une certaine forme, comment dire ça, sinon de naïveté ou en tout cas de difficulté à concevoir la totalité de la question sociale, notamment le prix du patrimoine et la façon dont on peut se loger dans les conditions d'aujourd'hui, sachant qu'il y a eu, de ce point de vue-là, des transformations historiques considérables. Je le répète, les 30 Glorieuses, c'était une période où le niveau de salaire en net réel, une fois tenu compte de l'inflation, augmentait de 4% par an. C'est-à-dire qu'en 4 ans, vous avez 16% dans la poche et qu'à l'époque, justement, le patrimoine, au contraire, ne connaissait pas d'envolée. C'est le patrimoine, le prix du mètre carré dans Paris intramuros. On peut en voir les séries longues, par exemple, chez Thomas Piketty ou chez d'autres économistes du logement. La situation idéale des années 1945-1975, c'était le fait que cette classe médiane, cette catégorie médiane des Français, ce juste milieu des Français, connaissait une montée, une aspiration vers le haut, une ascension sociale absolument extraordinaire par rapport aux parents. Alors que, au contraire, depuis une trentaine d'années, nous avons un plat. Vous avez parlé de 17% sur les revenus complets de la totalité de la population. Si vous regardez simplement les salaires à l'âge de 30 ans, Les salaires à l'âge de 30 ans ont stagné en pouvoir d'achat réel depuis une trentaine d'années. C'est-à-dire que les salaires des trentenaires n'ont pas progressé par rapport à ceux de leurs parents 30 ans plus tôt au même âge. Et c'est la première fois que ça arrive dans la société française depuis le début du XXe siècle.
Et ce qui fait dire aussi aux Français que semble avoir interrogé réellement l'INSEE, puisqu'il y a cette partie très étonnante, puisque très subjective de ce rapport de l'INSEE, qui est les projections sur l'avenir. L'INSEE dit, voilà, ces Français médians ont de sombres projections sur leur avenir et sentent bien qu'en cas d'accident, ils ont peu de marge. Tout ça est très subjectif aussi, François-Mickey Marty.
Oui, alors, effectivement, ces perceptions sur l'avenir sont très frappantes, mais depuis le début des années 2000, lorsque l'on interroge les Français en général, et en particulier, pour le plaisir de cette émission, j'ai regardé les déclarations faites par les professions intermédiaires, les employés, enfin les publics qui tournent autour de cette France médiane, ce qu'ils décrivent pour les deux tiers d'entre eux, est non pas une stabilité, mais un net recul. Ils ont le sentiment, et non pas uniquement en perspective sur l'avenir, mais en évolution dans la longue durée. Ils ont le sentiment que leur situation se détériore. Donc on a un effet de ciseau qui est frappant. Il y a deux éléments, simplement, je pense, qui sont intéressants. Le premier, c'est que c'est la question de l'identité, précisément. On parle ici d'un terme statistique, bien entendu. Qu'est-ce que c'est qu'être au milieu de la société française pour la vie quotidienne des gens, là où, en effet, dans les années 60, les 30 glorieuses, etc., ça avait du sens. Aujourd'hui, ce sens a disparu. Et puis, il y a une deuxième interrogation sur les perspectives d'avenir, l'idée même, au fond, de progrès pour toute une partie de ces personnes-là qui se demandent quelle peut être pour leurs enfants l'idée de vivre mieux qu'elles ne vivent elles-mêmes.
Et il y a d'ailleurs certaines professions, alors cette fois-ci c'est pas subjectif mais c'est mathématique, certains métiers qui se sont éloignés des classes aisées, se sont rapprochés de la classe médiane, ce sont les professions intermédiaires de la fonction publique, les professions de l'information, celles des arts et du spectacle, nous dit encore l'INSEE. C'est vrai qu'on se demande peu à peu, qu'est-ce que ça veut dire en fait exactement? Qu'est-ce qu'on essaye de dire avec cette catégorie de la France médiane qui fédère des situations sociales extrêmement diverses, que ce soit ces métiers que je viens de citer, des professeurs en début de carrière, alors je connais pas exactement les fourchettes de salaire, mais peut-être, je sais pas, un exploitant forestier, un contremaître dans une usine. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, d'en faire une catégorie, sinon sociale, au moins statistique?
Cette catégorie statistique présente un intérêt sur l'histoire de long terme des transformations du salariat en France, dans la mesure où, tout à l'heure, vous parliez de quel sens pour les classes médianes, pour la classe médiane au temps des Trente Glorieuses, ce sens était plus haut. C'est-à-dire qu'il y avait une dynamique générale de l'ensemble du salariat consistant à améliorer, à avoir du grain à moudre au sens syndical du terme, c'est-à-dire des ressources économiques, un pouvoir, la capacité à peser sur l'organisation générale du gouvernement, de l'État et de l'organisation sociale pour obtenir plus de droits sociaux. La société salariale comme constitution d'une propriété collective faite de droits sociaux, pour parler comme Robert Castel. Et c'était le cas jusque dans les années 70-80, et depuis nous vivons dans le détricotage de cela. C'est-à-dire ce qui faisait l'unité de cette classe centrale de la société française jusque dans les années 70, c'était une perspective de progrès qui unissait l'ensemble de cette population-là, qui était déjà extrêmement hétérogène. Il y avait des enfants de bourgeois, des enfants d'ouvriers, mais l'ascension et la constitution de droit étaient la perspective. Aujourd'hui, on est dans le dégonflement de cette forme de, non pas de bulle spéculative, mais de bulle salariale qui connaît aujourd'hui de grands problèmes de développement. Et ce que constatent les générations anciennes qui ont bien réussi en moyenne leur vie dans le monde du travail par rapport à leurs enfants qui, eux, ont d'énormes difficultés, même s'ils ont 3 années d'études de plus que leurs parents, leur capacité à rentrer au même niveau socio-économique et professionnel, et pire encore vis-à-vis du logement, vu l'explosion des prix du logement, les nouvelles générations font face à une situation d'hétérogénéisation croissante, voire d'explosion de cette classe médiane, qui est faite de plus en plus d'éléments hétéroclites qui se s'éparpillent dans une espèce de conflagration sociale que l'on voit assez bien en France.
Voilà, un détricotage, dites-vous, Louis Chauvel. Mais là, c'est vrai qu'avec ce rapport de l'INSEE, on a l'impression de situation complètement hétérogène, érigée en une catégorie statistique. Or, ces statistiques élaborées par l'INSEE, elles sont destinées à produire des outils de politique publique. Elles sont destinées au gouvernement qui ensuite en fait ce qu'il en veut, mais qui a priori doit dessiner des politiques. Je me tourne vers vous, François-Mickey Marty, qui êtes familier de comment les statistiques ensuite deviennent des outils de politique publique. Mais alors, qu'est-ce qu'on va en faire de cette catégorie-là, de la France médiane?
Oui, je crois qu'il y a deux choses. Il y a effectivement, on peut réfléchir sur... On imagine qu'en termes de politique publique, on peut réfléchir sur les aspirations, les besoins, les insatisfactions des uns et des autres. Mais ce qui est très frappant, et je pense qu'il faut quand même insister là-dessus, c'est précisément ce terme très professionnel qui relève de l'INSEE, de France médiane. C'est-à-dire, au fond, le problème est que cette France médiane n'a pas d'identité. C'est-à-dire, c'est exactement ce qu'on est en train de dire là. C'est-à-dire, il y a les politiques publiques et puis ensuite, il y a le discours politique. Et dans le discours politique, alors, sauf erreur de ma part, je crois qu'on aurait beaucoup de mal à trouver le terme qui permet de parler à cette France-là. Et a fortiori, les termes qui seraient utilisés par cette France-là elle-même pour se désigner. Donc c'est extrêmement compliqué. Alors, pour rebondir sur ce que dit Louis Chauvel d'un mot, je crois que On est passé aujourd'hui sur un raisonnement, une appréhension de soi pour une grande partie de ces Français en termes de trajectoire personnelle, c'est-à-dire où est-ce que je suis, etc., ou en termes de réussite, de parcours professionnel, etc. Ça, c'est le premier élément. Et surtout, le deuxième élément dont on parle beaucoup moins, c'est une appréhension du social à travers des expériences, des affects. Qu'est-ce que je vis au quotidien? Est-ce que je suis heureux, malheureux dans telle ou telle situation? Et donc, cette France-là, je vais un peu loin, je me lâche, cette France-là, en termes de discours politique, n'existe quasiment pas. On le voit d'ailleurs dans le discours politique actuel. On a une confrontation entre ce qui est censé être la France d'en bas, la France d'en haut, les pauvres et les riches. Mais entre les deux, il y a une cécité ou une absence qui est criante.
C'est la limite de ces études, Louis Chauvel. Les chiffres ne disent pas tout et vivre et faire partie de la France médiane n'est pas vécu de la même manière selon qu'on est dans une situation familiale précise, propriétaire ou pas de son logement, comme vous le disiez tout à l'heure, ou que sais-je encore, plusieurs notions.
À mon sens, et on le voit d'autant plus en termes de comparaison internationale, la France vit aujourd'hui dans une situation, on va dire, de stase, une forme de faux plat des transformations sociales qui se sont déjà très largement inversées dans d'autres pays. C'est-à-dire que la plupart des pays anglo-saxons ont connu au cours des 30 dernières années une véritable explosion de leur noyau central, de leur classe médiane, de leur catégorie située juste en dessous de la moyenne de la population. Le processus a débuté il y a plus de 35 ans maintenant aux États-Unis. On en voit toute l'étendue en quelque sorte de l'horreur sociologique depuis les années 80. C'est-à-dire que aux États-Unis, par exemple, on aura leur occasion d'y revenir.
La classe ouvrière
supérieure des États-Unis qui a fait le capitalisme salarial des États-Unis des années 60-70 s'est totalement inversé et est en situation de chute libre économique par rapport à une catégorie qu'on pourrait appeler les plus diplômés ou les bobos, c'est-à-dire les titulaires de diplômes supérieurs, bachelor's degree, master's degree, licence et master aux États-Unis, qui sont beaucoup plus, on va dire, économiquement sélectives que ce n'est le cas. Ces diplômes sont beaucoup plus sélectifs que ce qu'on trouve en France. Ce que l'on mesure aux États-Unis, c'est l'explosion entre les catégories qui se trouvent au-dessus de la moyenne aux États-Unis et cette catégorie médiane qui est juste située au-dessus la partie supérieure de la classe ouvrière et des employés. Et cette division peut avoir des conséquences politiques énormes.
François-Mickey Marty, la définition des classes moyennes faisait à ce point débat qu'il fallait trouver une catégorie strictement statistique de la France du milieu, notamment le subjectif entre trop en compte. Quand on parle des classes moyennes, on se sent ou pas appartenir à la classe moyenne, on est toujours le moyen de quelqu'un.
C'est très simple. Alors, il y a des définitions objectives sur lesquelles Louis Chauvel est très savant. Et puis, si vous posez la question aux Français, les deux tiers se situent dans la classe moyenne. Les deux tiers. 48% dans une classe moyenne ayant davantage de difficultés que l'autre. Le critère, si vous voulez, en termes de perception, en termes de vécu, il y a deux classes moyennes. Il y a celle qui s'estime majoritairement en déclassement, c'est ce qu'on pourrait appeler en termes horribles la classe moyenne inférieure, et une classe moyenne que l'on peut qualifier de supérieure qui, elle, s'estime en progression sociale.
Tous ceux qui appartiennent statistiquement à la France médiane ne le vivent pas de la même manière, disions-nous. Cela peut être aussi, peut-être, lié à la situation géographique. Pour notre premier coup de fil, notre Zoom, nous sommes en ligne avec Marie-Andrée Seguin. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire nationale de la CFDT, ancienne responsable régionale en Champagne-Ardenne, région industrielle avec notamment beaucoup d'usines de métallurgie ou des fonderies. Vous vivez vous-même en Haute-Marne. Vous avez pris connaissance de cette étude de l'INSEE. Est-ce que vous avez l'impression comme ça qu'elle correspond à une réalité objective, un sentiment d'appartenir à cette France médiane, en tout cas que connaîtraient ceux que vous représentez en tant que représentante syndicale?
Très honnêtement, j'ai du mal à les interpréter. Ce que je peux dire quand même, c'est que bon, il faut partir de ces chiffres, il faut les considérer comme un constat réel, mais qui doit nous servir de base pour pouvoir réagir et élaborer une stratégie justement pour pouvoir, à un moment donné, leur faire dire le contraire.
Leur faire dire le contraire, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire ne pas. J'ai quand même l'impression que ces chiffres-là sont, je dirais pas sinistres, mais ont quand même sont démoralisants.
Donc il faut les faire mentir et reprendre le dessus.
Se servir de cela justement pour dire il faut qu'on réagisse, il faut entre guillemets, pour parler plus court, prendre le taureau par les cornes, quoi, ne pas rester là et ne pas subir.
Alors appartenir à la France médiane ne se vivrait pas de la même façon, ne se vit pas de la même façon selon qu'on a du patrimoine ou qu'on n'en a pas, que l'on est propriétaire de son logement ou pas, et selon l'endroit où l'on vit, selon que l'on vit dans l'ouest de la France ou dans l'est par exemple, qui est quelque chose sur lequel Louis Chauvel a travaillé. Vous êtes dans l'est, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, je pourrais pas vraiment faire de comparaison, mais je pense qu'il y a toujours eu une différence entre l'Est et l'Ouest. Certes, l'Est a quand même été une région, comme vous l'avez dit, très fortement industrialisée et qui a subi le déclin de cette désindustrialisation et de fait a impacté y compris la population dans l'Est. On se rend compte par rapport à l'hémorragie des jeunes. Qui donne le sentiment que ces départements-là sont à la fois en déclin, mais pas que le sentiment, mais également en sommeil.
Parce que vous parlez d'hémorragie des jeunes, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les jeunes qui peut-être ne peuvent pas se projeter dans l'avenir, comme le dit l'INSEE, plutôt que de rester notamment en Haute-Marne où vous êtes, quittent le département, quittent la région
pour... Ah ben ça c'est un constat, enfin je parle surtout sur le département de la Haute-Marne, c'est un véritable constat.
Pour aller où alors ?
Eh ben ils vont poursuivre leurs études dans les métropoles. Ceux qui ont obtenu des diplômes essayent de travailler, se dirigent plutôt, alors pour ce que je connais sur la Haute-Marne, se dirigent beaucoup dans le sud-ouest, puisqu'on sait qu'il y a des débouchés dans l'aéronautique et que les usines de métallurgie haut-marnaises travaillent, donc il y a un petit peu une connaissance de par le travail qui peut être fait en entreprise. Ceux qui sont frontaliers, bien évidemment, à condition qu'ils soient bien diplômés, parce que là aussi, faut pas non plus, c'est pas un fantasme, mais il faut être bien diplômé pour aller travailler au Luxembourg. Hein. On sent bien. Et en même temps, je pense qu'il faut aussi tenir compte des aspérités de la jeunesse qui ne conçoivent pas obligatoirement de vivre là où ils sont nés. De par le manque d'attractivité du département, en fait, et de fait qu'ils apprennent et ils connaissent autre chose à partir du moment où ils vont faire des études dans d'autres régions ou dans des villes plus animées. Voilà.
Et justement, par votre, je peux me permettre de vous demander votre témoignage, votre expérience personnelle, puisque vous-même, vous avez été longtemps responsable d'un atelier de maroquinerie de luxe. Donc, vous étiez en tant que contremaître, je ne sais pas si on le dit encore comme ça,
C'était responsable de l'atelier de fabrication.
Responsable de l'atelier de fabrication, vous faisiez a priori partie, selon les catégories très 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 larges de l'INSEE, de cette France médiane. Aujourd'hui, est-ce que vos enfants, à diplôme équivalent, pourraient en Haute-Marne trouver quelque chose?
Ben, malheureusement non, puisque c'est ce type d'entreprises qui ont disparu, alors que ces entreprises-là de maroquinerie de haut de gamme sont en recherche de compétences dans l'Ouest, parce qu'il y en a qui se sont installés dans l'Ouest.
Alors pour conclure, Marie-Andrée Seguin, je voudrais vous demander si les syndicats, les élites syndicales entre guillemets, ont opéré un renouvellement générationnel qui leur permette aujourd'hui de mesurer le plus justement possible les enjeux d'aujourd'hui, 2017, et pas avec les grilles de lecture des 30 Glorieuses et notamment des âgés de 68.
Est-ce que la CFDT, oui, ça rentre dans le cadre d'une politique de renouvellement générationnel et de prise en compte des aspirations des jeunes. Puisque à la CFDT, on souhaite et on a mis en place des dispositifs pour que des jeunes générations puissent justement porter leurs revendications au sein de la maison CFDT par rapport à leur réalité.
Merci beaucoup Marie-Andrée Seguin d'avoir été avec nous ce soir. Merci Louis Chauvel sur cette question du déclassement dont nous parlait Madame Seguin. C'est votre diagnostic dès la fin des années 90. Vous dites que les jeunes générations décrochent socialement par rapport à celles de leurs aînés à niveau de diplôme équivalent. Or, on entend bien chez Madame Seguin qui nous parle de ces jeunes qui partent qui vers le Luxembourg, pays que vous connaissez bien, qui vers le Sud-Ouest, que chacun essaye de trouver des échappatoires, en tout cas, et que chacun trouve à chaque fois de quoi rebondir.
La situation de l'Est de la France a quelque chose d'exceptionnel, de quasiment caricatural, d'une dynamique plus générale. Ce qui est idéal comme lieu d'observation dans l'Est de la France, c'est que pour la génération des années 60-70, la médiane, c'était le CAP. Et qu'avec ce CAP, il a été possible pour l'industrie à Longwy, à Hayange, dans toute cette partie-là de la Lorraine notamment, de constituer une classe ouvrière supérieure, fière de son travail, la fierté ouvrière consistant à voir les flots d'acier en fusion couler cet or rouge qui a été la fortune de cette partie de la France dans les années 70 et rester profondément vivante dans l'existence des grands-parents, des arrière-grands-parents de plus en plus. Aujourd'hui, la médiane, c'est le baccalauréat. Pour les gens qui ont 30 ans aujourd'hui, le diplôme médian, c'est bac plus 1. Alors que leurs parents, qui ont fait, non pas fortune, mais qui ont fait la classe ouvrière fière au niveau de la médiane, étaient des personnes qui étaient à bac moins 3. Et vous avez aujourd'hui un contraste générationnel absolument extraordinaire entre une population de grands-parents qui ont fait la politique centrale de la France au sens de la construction de l'État-providence, des droits à la retraite, à la santé et tout ce que l'on veut, et le reflux de leurs propres enfants qui ont réussi du point de vue des études, mais qui n'ont pas réussi pour l'instant d'un point de vue social, mettent en évidence un retournement de la dynamique de la classe médiane qui était vers le haut, voilà 30 ans, vers le bas maintenant, qui a quelque chose d'exceptionnel. L'ouest de la France est plus modéré, calme de ce point de vue-là, mais malgré tout, les difficultés sont souvent les mêmes.
François-Mickey Marty, l'enrichissement des classes moyennes, c'était presque inscrit dans le pacte social de nos 30 glorieuses. Est-ce que ce déclassement objectif tel que nous le décrit Louis Chauvel est intégré? Que pouvez-vous dire, vous, de vos enquêtes d'opinion, du sentiment de déclassement?
Oui, je suis allé écouter beaucoup de Français de tous horizons. Il y a un paradoxe qui est très frappant, c'est-à-dire, bien sûr, la volonté de vivre et de vivre bien, de vivre mieux, et d'une certaine manière d'accéder de plus en plus à tout ce que l'on nous propose. Et par ailleurs, des malaises assez profonds. Le premier malaise, c'est la dénonciation d'une société de l'apparence. D'une certaine manière, comme si la société nous imposait de porter tel ou tel type de vêtements, de faire tel ou tel type de voyage, d'avoir tel ou tel type de moyens de transport, tel ou tel type de téléphone, d'ordinateur, etc. Et puis, deuxièmement, au-delà de cette critique de l'apparence, la dénonciation d'une société de l'indifférence. J'ai vu plusieurs témoignages poignants de personnes qui me disent, au fond, on vit dans un monde où, même si on se bat énormément, celui ou celle qui est à côté de moi, y compris des proches, pas ceux qui sont loin, mais des proches, reste, demeure, à côté de moi, mais c'est-à-dire sans lien véritable. Donc une société qui est en réalité dissociée. Et donc on a une tension qui me paraît fondamentale, dans le contexte de ce déclassement que vous évoquez, entre d'une part une aspiration très forte à vivre comme les autres, peut-être parfois à se comparer comme les autres, comme aurait dit Tocqueville, plus on est égaux et plus on cherche à se différencier, mais aussi l'idée que cette société vers laquelle on veut aller si fort, elle ne nous convient pas. Parce que c'est plein d'apparence et parce que c'est plein d'indifférence. J'ai vu un monsieur qui m'a dit, je trouve ça extraordinaire, mais moi, dans cette société, presque personne ne sait qui je suis vraiment. Parce que c'est un peu comme sur Facebook. On est dans un monde où on affiche des pseudo-identités et où cette société à laquelle on veut accéder nous intime le devoir d'apparaître de telle ou telle manière. Et ça n'est pas véritablement mon identité.
Donc des Français qui vous parlent de valeurs, des Français qui vous parlent d'humain plus que d'économie.
Des Français qui désignent comme principale source des mots, M-A-U-X, la dissociété, la mal-société. C'est-à-dire une société qui n'est pas une véritable société, c'est fondamentalement une absence de lien social, jointe à l'absence d'identité dont on parlait tout à l'heure, c'est très compliqué à résoudre. Et c'est à leurs yeux la source, la racine des difficultés à la fois économiques et politiques que nous connaissons aujourd'hui.
Difficultés du type l'épargne ne suffit plus puisque les crises se succèdent à un rythme qui ne permet pas de remplir le bas de laine, la dérive des prix de l'immobilier dont vous parliez tout à l'heure. Je voudrais juste qu'on avance dans l'émission pour vous poser cette question à vous deux. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, on a l'impression qu'on parle toujours soit des plus riches, soit des plus pauvres, mais jamais de ceux du milieu. Or, de quelle manière ces classes moyennes devraient compter et de quelle manière le pouvoir devrait veiller à s'assurer le soutien de ces classes moyennes dont Emmanuel Todd dit, écrivait notamment en 2008 dans son livre « Après la démocratie » que ce sont les classes moyennes qui notamment ont fait tomber le roi en 1789.
Oui, il reste malgré tout qu'à un an de distance, rappelons-nous, début décembre 2016, ça n'a pas l'air d'être loin historiquement, mais dans nos mémoires, c'est déjà très 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 éloigné. Ce qui était devenu au moment du premier tour des présidentielles n'était pas du tout ce qui était prévisible à la date d'aujourd'hui, voilà un an. Simplement, ce que l'on voit, c'est dans l'ensemble du dispositif des évolutions sociales depuis 6 mois, c'est que cette forme de catégorie absente, cette classe intermédiaire de la société française disparaît peu à peu. D'un côté, nous avons un président qui, sociologiquement et à tout point de vue, représente le mieux le tiers ou le cinquième supérieur de la société française, du point de vue des diplômes, du point de vue des ressources économiques, c'est-à-dire le président Macron, c'est avant tout Paris, les grandes villes, les mieux diplômés, bac plus 5. Nous sommes au centre de cette situation-là. Et de l'autre côté, la France insoumise exprime très clairement, la frustration extrême du bas des classes moyennes qui, visiblement, n'accède plus au paradis des classes moyennes tel qu'il avait été imaginé, pensé, voilà, une trentaine, une quarantaine d'années. Dans cette espèce de séparation, nous avons un phénomène qui a été connu par beaucoup d'autres pays avant la France, de promesses de développement des classes moyennes et d'impression d'enrichissement des classes moyennes, mais quand on regarde effectivement les indicateurs sociaux dans leur réalité, il est impossible que 2/3 de la population française se sentent membres des classes moyennes quand on regarde les conditions d'existence économique des jeunes générations d'aujourd'hui qui ne peuvent pas s'y maintenir.
Mais il faudrait voir la politique économique telle qu'elle a été dessinée pour l'instant dans son ensemble, mais si on prend quelques grandes mesures qui ont été actées ces derniers temps, est-ce que par exemple les réformes du marché du travail et de la formation vous paraissent en mesure d'éviter ce qu'un économiste allemand Michael Bonne décrit depuis quelques années dans les pays riches, c'est-à-dire que l'emploi se polarise désormais entre peu qualifiés et très qualifiés au détriment des emplois intermédiaires? Dans toutes les mesures qui ont été annoncées jusque-là, lesquelles vous paraissent jouer en faveur spécifiquement des classes moyennes, François-Michel Marty?
Il y a 3 choses, très rapidement.
Et on remarquera qu'on s'est éloigné, pardon, du sujet de la France médiane, mais à un moment,
elle est au cœur de ces classes moyennes, la France
bien
médiane.
Sûr.
La première chose sur cette politique, au fond, de flexi-sécurité, elle est a priori en résonance parfaite avec cette France médiane et moyenne qui résonne de plus en plus en termes de parcours personnel. Donc, sur le fond, elle paraît pertinente. Il y a une difficulté ensuite de communication ou politique, je ne sais pas, qui est qu'elle est souvent assez mal comprise. C'est-à-dire l'idée de la flexi-sécurité, notamment parce que c'est recouvert par les discours sur la France des riches, la France des pauvres, qui est plus percutante. C'est le premier élément. Le deuxième élément, il y avait un autre type de réponse, qui était celle de Nicolas Sarkozy en 2007 notamment. Dans ce contexte de déflagration de la cohérence de ces classes moyennes, était apparue, après la crise de 2008, la dénonciation des adversaires. Les adversaires, c'est la France qui se lève tard, le patron voyou, le monde de la finance qui nous ennuie. Et Nicolas Sarkozy était parti voir l'immigré, voir l'étranger. Et Nicolas Sarkozy avait enfourché cette thématique-là, en partie, avec les dénonciations, une partie des dénonciations que j'ai évoquées. Mais on voit bien que tout ça ne suffit pas. Ni Nicolas Sarkozy n'est véritablement parvenu à fédérer ses électorats, ni aujourd'hui véritablement Emmanuel Macron. Je crois qu'il y a 2 choses qui, d'une certaine manière, pourraient être des sources de réflexion pour l'avenir. On ne peut pas faire l'abstraction de la nécessité d'un maillage territorial, c'est-à-dire au fond qui rétablisse du lien sur les territoires. Et d'autre part, dans une perspective un peu plus lointaine, il me semble que le digital peut être aussi une source de rétablissement du lien qui vise à casser des clivages territoriaux qui demeurent aujourd'hui quand même très très forts.
Louis Chauvel?
Oui, en fait, certaines professions sont particulièrement intéressantes pour analyser ce qui se passe. Le monde des chauffeurs de bus, par exemple, fait partie des mondes qui ont été analysés, notamment par Schwartz dans son habilitation, sur les transformations des classes moyennes salariées, employées du public au cours des années récentes. Enfin, il écrivait cela, voilà une dizaine d'années, de déstabilisation intégrale d'une population qui se sentait membre de la fonction publique et qui s'est retrouvée au service des plus grandes difficultés. Aujourd'hui, plus récemment, l'une des populations les plus intéressantes à analyser de ce point de vue-là dans les grandes villes et aussi plus encore dans Paris, ce sont les taxis. Les taxis qui ont payé souvent leur plaque à 250 000 euros, voilà 3-4 ans, et qui se retrouvent maintenant face au même prix de la plaque à moitié moins cher, ce qui veut dire qu'ils ont investi environ 1300 euros de leur emprunt ou de leur épargne personnelle pour quelque chose qui s'est évanoui au cours de cette période-là. Et typiquement, les taxis ont été à une époque au centre de cette classe médiane de la population française qui se sent victime des politiques publiques de transformation, d'ubérisation de la société française. Et ce discours sur l'ubérisation n'est pas simplement central pour les chauffeurs de taxis. C'est aussi quelque chose qui est vécu de plus en plus quotidiennement par une masse de gens à la poste ou ailleurs dans la fonction publique et bien évidemment dans le secteur privé. Ce qui nous amène à une inquiétude énorme, immense, d'une partie importante de ces classes moyennes par rapport aux politiques publiques des années récentes et bien évidemment des années qui viennent, simplement parce que à la manœuvre, c'est la même classe sociale.
Mais c'est notamment un ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui dit cet été devant l'université d'été du MEDEF, la réussite économique ne doit pas se faire au détriment de la disparition des classes moyennes, mais de leur renforcement. Nous devons faire émerger en France une nouvelle classe moyenne en gras et surlignée dans le papier qui a été remis à la presse. Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, parce que politiquement, les incidences sont très fortes. On se souvient de Valéry Giscard d'Estaing qui entendait fédérer cette classe moyenne centrale, 2 Français sur 3, qui pour lui était le porteur de la politique de l'avenir. Aujourd'hui, beaucoup d'électeurs appartenant à cette classe moyenne sont hésitants. Lors de la dernière élection présidentielle, si l'on s'en tient au vote des professions intermédiaires, 23% ont voté pour Emmanuel Macron, 25% pour Jean-Luc Mélenchon, 18% pour Marine Le Pen. Donc en réalité, il y a une tripartition. Une proportion non négligeable vote pour Emmanuel Macron. Mais on sent bien, les trois quarts de ces mêmes électeurs s'estiment oubliés, les trois quarts s'estiment pas pris en compte au sein de notre démocratie actuelle. Autrement dit, ils sont dans une phase de doute politique majeur. Donc je pense que pour les années qui viennent, effectivement, c'est là que se situe l'une des clés de l'évolution des rapports de force politiques. Selon qu'au fond, pour dire les choses simplement, ces classes médianes et moyennes vont demeurer dans des lignes politiques modérées ou au contraire privilégiées à force de sentiment d'être incompris des sensibilités politiques plus extrémistes.
Donc urgence, Louis Chauvel, que de considérer ces classes moyennes dans les
Absolument.
Politiques.
Absolument. La sociologie allemande des années 1930 avait consacré tout un ensemble de travaux, notamment Panique in Mittelstand, Panique dans la classe moyenne, où effectivement une société qui connaît une déstabilisation forte de son noyau central peut verser d'un côté ou de l'autre, surtout dans les pires extrêmes, très facilement. Et c'est un phénomène qu'un certain nombre de pays ont déjà connu, d'une façon moins tragique que dans les années 30 en Europe, mais malgré tout, nous voyons, notamment aux États-Unis, des transformations politiques totalement inattendues, imprévisibles, dans des conditions qui sont intéressantes à observer pour les sociologues, mais qui sont tragiques à vivre pour les gens qui y sont en face.
Imprévisibles du genre Donald Trump, vous voulez dire ?
Par exemple, et nous avons vu d'autres épisodes en Europe centrale de transformations politiques de la démocratie qui sont particulièrement préoccupantes.
France Culture. Dimanche et après. Julie Gacon.
plaisir que de recevoir en studio cette fois notre interlocuteur chargé du télescope de cette émission, collimation de notre instrument vers les États-Unis, où l'on dit que les catégories médianes se vident plus vite encore qu'ailleurs. Vous parliez, Louis Chauvel, tout à l'heure d'une explosion du noyau central. Bonsoir Bradley Smith.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en studio. Vous êtes maître de conférence en civilisation américaine à l'Université Paris-Nanterre. Vous êtes l'auteur d'une thèse sur la dialectique du néolibéralisme aux États-Unis et le rôle qu'ont joué les classes moyennes dans le tournant de ces politiques. Est-ce que la définition même de la classe moyenne fait autant débat aux États-Unis qu'en France ?
Oui, il n'y a pas de définition officielle des classes moyennes aux États-Unis, comme il peut y avoir une définition du seuil de pauvreté, par exemple. Et il y a plusieurs manières d'essayer de les définir, selon le revenu ou le patrimoine, ou encore selon le niveau d'études ou le type d'emploi. Et en 2010, l'administration Obama a publié un rapport assez intéressant où il était question de définir les classes moyennes selon des aspirations. Et ils ont défini 6 aspirations pour les classes moyennes. Il y avait l'accès à la propriété immobilière, avoir une voiture, avoir un diplôme de l'enseignement supérieur, notamment pour ses enfants, avoir une assurance maladie, une pension de retraite et pouvoir partir en vacances de temps en temps.
Et ça, c'est ce qui définit la classe moyenne selon Barack
Obama.
Voilà. Et donc, ces aspirations ne sont pas celles des classes modestes pour lui.
Si, il s'agit d'aspirations, mais aussi de la capacité de réaliser ces aspirations. Et donc, c'est pas à la portée de tout le monde. Et le but de ce rapport est de voir comment est-ce qu'on peut élargir les classes moyennes.
Alors, s'il y a tant de définitions possibles des classes moyennes aux États-Unis, il est difficile de vous poser la question de ce qu'elles représentent aujourd'hui numériquement.
Selon la façon dont on définit, ça varie de 40 à 50% de la population. Si on prend les 50% de milieu, selon la définition du revenu, c'est ça. Selon des sondages Gallup, il y a à peu près 40% des Américains qui se définissent eux-mêmes comme classe moyenne et encore 15% qui se définissent comme classe moyenne supérieure.
C'est moins qu'en France.
Oui. Beaucoup moins.
Oui.
En fait, la comparaison est très intéressante de ce point de vue-là par rapport à la France et la plupart des pays européens. C'est que si on utilise les mêmes définitions statistiques dures, on va dire, de densité de la population ou proche de la médiane, aux États-Unis, on a à peu près 2 fois moins de monde. Ce qui historiquement est extrêmement intéressant parce que les classes moyennes salariées ont été quasiment, la société de classe moyenne a quasiment été inventée aux États-Unis dans les années 50 avec la voiture, la petite maison de banlieue, le chien, les 2 enfants, madame, tout ça dans la Ford.
On voit
et en fait, cette dynamique de classe moyenne a été inversée 30 ans plus tôt, 20 ans plus tôt qu'en France. Et le résultat aujourd'hui est assez désespérant pour ceux qui n'ont pas, une licence.
Et Bradley Smith, comment alors tout ça s'est inversé? Si on devait faire le récit en quelques mots, pardon, de l'érosion de la classe moyenne américaine, on commencerait par une date peut-être, par exemple?
C'est difficile de dater, c'est un processus continu, si vous voulez, mais effectivement, on peut comparer la période d'après-guerre à la période depuis les années 70-80. Aux États-Unis, les revenus d'à peu près tout le monde a progressé de 3% par an, ce qui fait un gain cumulatif de 100% pour l'ensemble de la société. Ça veut dire que la croissance bénéficiait plus ou moins à tout le monde de la même façon. Ça ne réduisait pas forcément les inégalités, mais tout le monde progressait. Ce qu'on constate depuis la fin des années 70, c'est que les 20% des Américains les moins fortunés, leurs revenus n'ont pas progressé du tout. Les classes moyennes, entre guillemets, ça a progressé entre 20% et 50%. Et les plus riches, c'est-à-dire moins d'1% de la société, leurs revenus ont augmenté de plus de 600%.
On arrive à la fin de cette émission. Bradley Smith, comment s'est adaptée la politique sociale, la politique américaine à ces évolutions sociétales? Est-ce que Donald Trump doit sa victoire à cette évolution?
Est-ce qu'il doit sa victoire à cela? Ça a joué un rôle sans doute, mais c'est sûr que c'est un peu un passage obligé pour tous les hommes politiques américains de parler aux classes moyennes et de prétendre les aider à réaliser ces 6 aspirations selon les politiques qu'ils proposent.
Louis Chauvel.
Il doit surtout sa victoire à une profonde déstabilisation sociale. Ce qui est advenu était à peu près impossible. Il y avait une chance pour 1 million que cela puisse avoir lieu. lieu dans une situation beaucoup plus stable, l'élection de Trump aurait été absolument impossible. D'un point de vue simplement littéraire, Donald Westlake, Le Couperet, est un roman policier qui présente l'explosion de cette classe moyenne de techniciens très spécialisés dans les années 80, qui sont en train de s'entretuer les uns les autres, de tuer leurs concurrents, de façon à avoir le seul job de technicien du carton. C'est savoureux, Donald Westlake, Le Couperet.
Bon, le système social à la française, pour l'instant, a joué son rôle d'amortisseur, François-Mickey Marty. On peut espérer que tout ça
se poursuive,
que les classes moyennes
et avec peut-être en conclusion, je ne sais pas, un paradoxe assez extraordinaire, savoir que beaucoup, on pourrait dire, on veut tous faire partie de la classe moyenne, mais on ne sait pas ce que c'est. Ceci peut-être explique cela. C'est parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'on veut en être. Voilà.
Merci beaucoup François-Mickey Marty, président de Via Voice. Je rappelle le titre de vos ouvrages parus chez Michalon, Les oubliés de la démocratie et Les nouvelles passions françaises. Merci à vous Louis Chauvel d'être venu chez nous. Les classes moyennes à la dérive et votre dernier livre, La spirale du déclassement, essai sur la société des illusions, est toujours disponible au Seuil. Merci Bradley Smith d'avoir été avec nous pour la fin de cette
Merci
émission.
Vous
êtes maître de conférence en civilisation américaine à l'université Paris-Nanterre. Très bonne soirée sur France Culture.